Extrait du journal de bord du Covadis. Capitaine Freya Eastcott. Année terrestre 2731. Archives numériques consultées pour la dernière fois en l'an 2830. Il est psychologiquement difficile pour l'équipage de franchir la limite du système solaire. Nous avons certes dit adieu à la Terre ou à ce qu'il en reste il y a plus de 3 mois. Mais pendant cette période, au moindre problème, nous savions que nous étions suffisamment proches pour faire demi-tour. Il a été difficile de quitter chacun des vaisseaux qui composaient notre flotte. Aujourd'hui, c'est nous qui avons laissé le Discover et le Hermès. J'ai senti que l'équipage marquait le coup. Maintenant, la Terre est un souvenir. Les enfants à naître ne la connaîtront pas. Le Quo Vadis est vaste comme une cité, et cette cité dérive lentement, sans but, dans une direction aléatoire. Au niveau de l'espèce, nous avons à espérer que notre descendance, un jour, trouvera refuge quelque part. Au niveau individuel, nous devons apprendre à vivre ainsi, dans cette cité flottante, enfermés, ensemble, pour toute notre existence. Chapitre 2. Mission. Année terrestre 3416. À 20 ou 25 000 mètres de hauteur, la vue sur une planète était toujours d'une beauté vertigineuse. Il arrivait que le capitaine ordonne d'obturer les parois transparentes de la salle de réunion, afin d'empêcher la distraction que provoquait, chez les hommes et les femmes de l'équipage, ce spectacle violent et à jamais inouï. Il y avait dans les annales des cas d'astronautes que la beauté avait rendus fous, qu'elle avait poussés au suicide. On appelait ça le syndrome de Pesquet. On ne pouvait poser les yeux sur ces lumières immémoriales, ces nuages qui paraissaient des morceaux de couleurs arrachés au premier soubresaut de l'univers, ces horizons courbes baignant dans des clartés surréelles. On ne pouvait embrasser tout un monde, dans sa sublime finitude, sans avoir l'impression de violer un secret mortel. Pour l'heure, cependant, le capitaine de la sonde, Egon Richards, n'avait pas jugé nécessaire d'obturer les hublots, et le major scientifique Michael Strauss lui en était reconnaissant. Tous les membres scientifiques de l'équipage étaient présents, et Michael n'aurait su dire s'ils écoutaient les mots du capitaine ou s'ils étaient totalement égarés dans la contemplation hypnotique de l'organe. Lui-même se sentait dans un état de conscience un peu particulier, l'esprit scindé. Comme la vie aérospatiale lui avait appris depuis quelques années, il laissait son moi spontané et profond divaguer dans les limites étroites de la rêverie, tandis que le major, en lui, exécutait les tâches inhérentes à sa fonction. Écouter le briefing, se rendre aux messes, effectuer les parcours sportifs, analyser des données, rédiger des rapports. Pendant que le major Strauss, impeccablement, s'acquittait de son devoir, quelque chose en lui de plus flou et de plus humain continuait sa vie souterraine. Il est temps de faire le point sur les premières constatations que nous avons pu effectuer sur cette planète, disait le capitaine Richards. Comme vous le savez, les autochtones l'appellent l'organe. Ils sont indéniablement de souche humaine, avec peu de modifications morphologiques apparentes. Des études plus poussées de leur ADN devraient permettre de confirmer que leur génome est bien celui de l'Homo sapiens sapiens, ce qui semble assez évident puisque leur langue est manifestement un dialecte de l'anglais. D'après eux, un vaisseau avec quelques milliers de passagers aurait atterri sur l'organe lors du grand essaimage. Nos données corroborent cette possibilité comme extrêmement probable. L'ordinateur date leur arrivée sur la planète de 589 ans, avec une probabilité de 98%. Ils n'ont eu aucun contact avec l'espace extérieur depuis. Des murmures surpris parcoururent l'assemblée. « Quel stade civilisationnel ont-ils atteint ?» demanda la première enseigne Salama. « À combien évalue-t-on leur nombre ?» demanda le major Saint-Louis. « Occupe-t-il l'ensemble de la planète ?» demanda le lieutenant Malkin. Le major Strauss continuait à se taire. Ses coéquipiers avaient le sens des chiffres. Ils posaient les questions pertinentes, qui menaient droit au but. Mais Michael n'avait pas envie d'aller droit au but avec cette planète. Il avait envie de la déshabiller progressivement de ses nuages, de la parcourir lentement, de la découvrir. Les premières analyses géologiques promettent-elles des ressources quelconques à exploiter ? Demanda quelqu'un d'autre. Toutes vos questions sont bien sûr aussi légitimes qu'urgentes, répondit Richards. Malheureusement, vous allez devoir vous contenter de réponses approximatives pour le moment. Le niveau technologique paraît à première vue assez rudimentaire, mais il y a des éléments discordants. Il m'a semblé apercevoir un grand bâtiment dont sortait un panache de vapeur. Leurs compétences agricoles, architecturales, mécaniques me paraissent globalement équivalentes à l'Europe du XVIIe siècle, mais il faut bien sûr une étude beaucoup plus poussée pour en avoir le cœur net. Il ne s'agit que d'une première impression. Nous savons que le développement des colonies essaimées est extrêmement variable et ne suit pas la logique de l'histoire terrestre. Certaines inventions se perdent, d'autres sont conservées malgré un recul de tout le reste, d'autres encore fleurissent à contre-temps. Je me propose de descendre sur l'organe pour une évaluation technologique, dit l'ingénieur en chef Ido. Accordé, dit le capitaine. J'avais justement l'intention de constituer un groupe d'investigation. Vous serez particulièrement attentif au niveau d'armement et d'ingénierie militaire. Michael releva la dernière remarque, mais ne fit pas part des réflexions qu'elle lui inspirait. Je souhaiterais pouvoir descendre également, dit-il, afin de procéder à une analyse ethnologique et sociologique. Le lieutenant Malkin ne put s'empêcher de ricaner. « Je comprends que vous ayez besoin de vous occuper, Major Strauss, mais à quoi cela va-t-il nous servir, une analyse ethnologique ?» Michael ne répondit pas et continua à regarder calmement le capitaine. « Accordé, » dit ce dernier. « Nous pouvons avoir besoin d'une issue diplomatique. »« Évidemment, j'aurai besoin de toute une équipe pour ma part, » intervint le Major Rodriguez. Un roboticien, un opérateur de drone et un assistant analyste au minimum. Bien sûr, dit complaisamment le capitaine Richards. Vous emmènerez aussi la seconde enseigne Touré, qui vous aidera pour la cartographie. Les recherches géologiques et minières sont au cœur de notre mission. Avez-vous des questions ? Les membres de l'équipage se regardèrent. Ils étaient rarement réunis dans ce vaisseau assez vaste pour leur permettre de mener des existences parallèles. Aucun d'eux n'aimait particulièrement prendre la parole en public, et on les sentait prêts à se disperser dès que cesserait d'opérer la force centripète qui les retenait soudés, en l'occurrence, le capitaine. Les membres de l'équipage qui ne sont pas concernés par la mission d'investigation rompaient. Le lieutenant Malkin, suivi de sa cour, sortit parmi les premiers. D'autres s'attardèrent un peu près des hublots, pour emporter avec eux une dernière image de la planète flamboyante. Puis les membres désignés resserrèrent les rangs autour du capitaine. Il y avait l'ingénieur en chef Ido, un homme sérieux et discret, le major Rodriguez, que Michael connaissait assez peu, l'enseigne de seconde classe Michel Touré, spécialisé en cartographie 3D, ainsi que l'assistant analyste Damian Azouri et la roboticienne Isla Brown. « Vous ne descendrez pas à terre, capitaine ?» demanda Michael quand les autres furent partis. « Non. » J'y suis déjà descendu, je ne pense pas y retourner. Michael exprima sa surprise par un sourire, mais ne fit pas de commentaire. Comment pouvait-on renoncer au privilège de cette escale sur une planète tempérée, végétalisée et habitée? Comment, avec la possibilité de poser ses pieds sur un vrai sol, pouvait-on choisir délibérément de ne pas le faire? Egon Richards était décidément un homme intéressant, un homme que Michael aurait plaisir à analyser si l'occasion s'en présentait. À cet égard, je vous recommande la plus grande prudence. Le retour à une gravité et à une atmosphère naturelle, la proximité de nombreux organismes vivants, provoquera sans doute dans votre cerveau une forte concentration d'endorphines. Mais ne vous laissez pas submerger par votre enthousiasme. Restez concentré sur votre mission d'analyse et ne prolongez pas votre séjour sur la planète au-delà du nécessaire.
Durée maximum de la mission ? Demanda Rodriguez.
Quelques jours. Un rapport quotidien sur mon canal direct. N'hésitez pas à me contacter pour toute question délicate.
Rodriguez, vous et votre équipe ne serez probablement pas beaucoup en contact avec les autochtones. Une fois les autorisations accordées par le gouvernement en place, quel qu'il soit, je vous invite à vous éloigner des lieux d'habitation et à commencer le quadrillage systématique sur toute cette zone.
Il désigna environ un tiers de la planète sur la carte numérique. Vous redescendrez à Terre les jours prochains, à d'autres points de l'organe. Néanmoins, il me semble indiqué de commencer par la zone habitée. Vos appareils couvriront sans problème ce type de relief.
Ingénieur en chef Ido, vous resterez le plus possible avec le Major Strauss, du moins au début. S'il vous est possible ensuite de vous déplacer seul, vous pourrez procéder à votre audit technologique en toute indépendance. C'est cependant au Major Strauss que je confie le soin de prendre les décisions concernant les relations diplomatiques avec les autochtones.
Major Rodriguez, je vous demande également de suivre ses prescriptions dans ce domaine.
Tout le monde acquiesça. Si nous avons terminé notre repérage avant le reste de l'équipe, pouvons-nous remonter séparément ? Demanda Isla Brown.
Je considère que cette mission d'investigation comporte deux volets, un volet géologique et un volet de renseignement. Les membres de la mission géologique doivent rester et remonter ensemble, mais peuvent éventuellement remonter avant les membres de la mission de renseignement.
Quels sont les objectifs chiffrés ?
Pour la mission géologique, les données sont déjà transférées sur vos comptes avec les coordonnées de la zone à balayer et les types de relevés et de prélèvements attendus. Pour la mission de renseignement, les objectifs sont, dans l'ordre des priorités, établir un contact amical avec les autorités autochtones, évaluer, de manière précise, leurs capacités techniques, notamment leurs capacités de destruction, se familiariser avec leur mode de fonctionnement social, leur mentalité et les grandes lignes de leur histoire, évaluer les possibilités de coopération ultérieure avec l'Union.
Michel Touré ne parvenait pas à éteindre le sourire qui illuminait son visage, comme une personne amoureuse dont la bouche s'étire involontairement au souvenir d'un mot tendre. Ses lèvres souriaient malgré elle à la perspective de toucher terre.
« Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir avec nous, capitaine ? »
risqua-t-elle. Le capitaine Richards lui sourit. « J'en suis sûr. » Elle reprit son sérieux, avec une difficulté manifeste, et l'effort creusa des fossettes dans ses joues.
Si vous n'avez plus de questions, rendez-vous demain dans la salle de débarquement à 8 heures précises.
Rompez, finit par dire le capitaine, et le visage de Michel, comme un corps qui se dévait de l'uniforme, abandonna son expression contenue et laissa éclater son excitation.
Michael la regarda un long moment, avec bienveillance. Il n'était pas fréquent de voir une telle expression sur les visages compassés de l'équipage. Il s'aperçut que le capitaine Richards la considérait avec le même sourire amusé, et les deux hommes eurent un regard de connivence amicale.
« Restez un moment, Major Strauss, s'il vous plaît. »
Les autres saluèrent le capitaine, avec un peu plus de chaleur que d'ordinaire. Même l'ingénieur en chef Ido, d'ordinaire si peu expansif, serra la main de Michael avec une effusion inhabituelle.
Egon Richards était un homme qui parlait peu, ou plutôt qui n'utilisait jamais la parole avec légèreté. Michael se sentit donc intrigué par cette demande, dont il se demandait si elle était une requête personnelle ou un ordre. Malgré la sympathie qu'il éprouvait pour le capitaine, leur lien était toujours demeuré purement hiérarchique. On sentait par moments de légers à-coups dans le vaisseau, qui traversait d'invisibles radiations ou des nuages de particules. C'était une sensation désagréable qui rappelait à l'équipage toute la fragilité de sa condition. Mais le capitaine, avant de prendre la parole, garda un visage impassible. «
Major Strauss, je sais que vous êtes diplômé en ethnologie exoterrestre, anthropologie, linguistique, sociologie, psychologie des organisations. Vous êtes probablement la personne la plus qualifiée pour accomplir une mission un peu particulière. »
Michael, dont les yeux étaient attirés malgré lui par la lumière dorée qui nimbait l'organe, demanda
« Une mission sur l'organe ?»«
Non, » s'empressa de dire le capitaine. « Cela n'a rien à voir. » Il s'agit d'un problème que nous avons à bord.
Michael s'arracha, avec difficulté, à la contemplation de la planète.
Je vous écoute.
Le mécanicien en chef, Philippe Reda, paraît atteint de graves problèmes psychologiques.
Michael avait déjà entendu ce nom, mais ne voyait pas le visage de Reda. N'en avez-vous pas parlé avec la cellule médicale ? Si, bien sûr. Mais les solutions chimiothérapeutiques paraissent avoir trouvé leurs limites. Et pour ne rien vous cacher, les docteurs se renvoient la balle et déclarent forfait. Est-ce permis par le serment d'Hippocrate ? Ils disent que Reda n'est pas malade. Mais ce n'est pas votre avis. Il n'est pas malade au sens où sa raison ne paraît pas affectée. Son problème serait plutôt d'ordre métaphysique. Michael écarquilla les yeux. D'ordre métaphysique. Un problème concernant l'âme, la liberté, le temps, Dieu, la matière. Si on veut, il est suicidaire. Michael hocha la tête. Qu'attendez-vous de moi ? Que vous essayiez une sorte de thérapie par la parole. Une psychanalyse ? Vous ne pensez pas que c'est pertinent ? Je n'ai pas l'habitude de discuter les ordres, capitaine. Ce n'est pas un ordre. Michael allait de surprise en surprise, mais tâchait de ne rien en montrer. C'est un service que je vous demande, Major Strauss. Je considérerais comme un échec personnel qu'un membre de mon équipage se suicide. Et comme vous ne pouvez pas manquer de le savoir, les suicides à huis clos sont étrangement contagieux. Michael hocha gravement la tête. Bien sûr, capitaine, je veux bien essayer. Mais je me dois par déontologie de vous rappeler que je ne suis aucunement qualifié pour ce genre de thérapie, je n'en ai jamais pratiqué. Vous êtes un homme intelligent et sensible, Major Strauss, ce sont des qualifications qui me suffisent. Souhaitez-vous que je voie Reda ce soir même ? Oui, si ça ne vous dérange pas, avant de partir en mission. Michael hocha la tête et suivit le capitaine Richards à travers le dédale de coursives identiques et d'ascenseurs silencieux. Ils ne croisèrent personne. Avec un effort d'imagination, on aurait pu se croire à bord d'un vaisseau fantôme. « Lorsque j'ai été promu capitaine, » dit Richards d'une voix lointaine, « je me représentais des difficultés techniques, des problèmes de panne, de pilotage, d'approvisionnement. Je me demandais si je serais à la hauteur. » Michael, un peu intimidé, ne savait pas quoi répondre. Mais le capitaine n'attendait pas de relance et reprit la parole un instant plus tard. En réalité, cette routine ne m'a jamais causé de difficultés. Ce sont les hommes qui posent problème, toujours les hommes. Ils firent encore quelques pas, puis s'arrêtèrent devant l'une des innombrables portes qui menaient au quartier de l'équipage. Il y avait un numéro sur la porte, 2C44. Je vous laisse, Major Strauss. Il vaut mieux que vous fassiez sa connaissance sans moi. Michael regarda s'éloigner le capitaine et écouta le bruit de ses pas décroître dans le couloir. L'impression d'être à bord d'un vaisseau fantôme s'intensifia lorsqu'il fut seul, au seuil de cette porte derrière laquelle la mort rôdait, vaporeuse, à l'état de désir. Il frappa plusieurs coups rapides, puis, sans bien savoir pourquoi, trois coups distincts, et la porte s'ouvrit comme un rideau qui se lève. Philippe Reda, qui avait environ 35 ans, était nettement plus couvert que la température ne l'exigeait. Il était aussi beaucoup plus pâle que la plupart des membres de l'équipage, probablement parce qu'il dédaignait les séances d'UV obligatoires depuis un certain temps. Il avait en revanche un regard étonnamment vivant, presque rayonnant, qui témoignait d'une vie intérieure active. Un de ces visages dont on oublie les traits, mais qui exercent par leur présence un magnétisme inexplicable. « Bonjour, » dit Michael. « J'espère que je ne vous dérange pas. » « Pas particulièrement, » dit Reda. Sa voix avait plu à Michael. Ce n'était pas la voix d'un fou, mais une voix pleine de distinction, assez lente, au timbre grave. « Je ne sais pas par où commencer, » reprit Michael. « Je suis le major Michael Strauss, et c'est le capitaine Richards qui m'envoie. » Philippe Reda sourit. « Le capitaine pense que j'ai besoin d'un ami ?»« Peut-être. Accepteriez-vous de me laisser entrer ?»« Pourquoi pas ?» Il s'effaça pour laisser entrer Michael, puis referma la porte 2C44 et conduisit son hôte jusque dans un petit salon, assez impersonnel, dont la dimension modeste correspondait à sa place dans la hiérarchie militaire. C'était un espace plus exigu que celui dont il jouissait lui-même, et la conscience soudaine de ses privilèges plongea Michael dans un silence gêné. Mais ses quartiers n'étaient pas seulement petits. Tout comme son corps, l'appartement de Reda sentait aussi une sorte d'abandon.
Vous êtes l'officier ethnologue, n'est-ce pas ?
Oui, en effet. Et c'est pourquoi, parmi tous ces amateurs de sciences dures, il vous a choisi, vous, pour venir me parler. » Michael hésita un instant, puis se lança. « Il m'a demandé de vous proposer une sorte de thérapie par la parole. » Reda eut un sourire un peu triste. « Je vois. Il s'inquiète beaucoup, le capitaine Richards. Il ne voudrait pas d'un suicide à son bord. » Michael ne répondit rien et attendit. « Et vous, Major Strauss, vous pensez que le désir de mourir, ça se guérit? Que ça s'expurge comme un toc ou comme une addiction ?»« Pour être honnête, je n'en sais rien. Cela ne me paraît pas impossible. » Reda hocha la tête avec une pointe d'ironie. « Nous pouvons essayer si cela vous fait plaisir. » Philippe Reda s'installa confortablement dans son fauteuil et attendit avec un mélange de docilité et de scepticisme. Michael eut l'impression de jouer un rôle dans un mauvais film lorsqu'il demanda « Vous avez employé l'expression « désir de mourir ». Cela fait longtemps que vous éprouvez ce type de désir ?»« Je ne sais pas à partir de quand on doit parler de « désir ». Je pense à la mort très souvent, depuis l'adolescence, tous les jours en fait. J'ai toujours plus ou moins su que je mourrais de ma propre main. Mais cela n'est devenu une préoccupation constante, une sorte de projet, que beaucoup plus récemment. Je dirais 2 ans. Vous n'avez jamais fait de tentative de suicide ? Non. Quand vous dites « préoccupation constante », cela veut dire que vous y pensez réellement en permanence ? Non. Il y a des moments où je me concentre sur autre chose. Mais comment vous dire, il m'est de plus en plus difficile de me concentrer sur autre chose parce que les autres choses ont de moins en moins de sens. Et la pensée de la mort, elle, a un sens. Oui, c'est ce qu'il y a dans ma tête de plus consistant. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est un peu comme quand on est amoureux, cela devient la seule chose importante, tout le reste paraît dérisoire. Qu'est-ce qui est dérisoire, par exemple ? Les gestes du quotidien, beaucoup, se laver, s'habiller, manger, s'occuper de son corps, et puis aussi les tâches à bord. Je suis mécanicien, je dois accomplir beaucoup de tâches qui n'ont pas de sens. Vous avez dit que la mort était devenue votre projet, n'est-ce pas ? Cela veut dire que vous planifiez votre suicide ? Non, pas encore, pas vraiment. Je le fantasme pour l'instant, j'en rêve. Mais ce n'est pas encore le moment. C'est comme si j'étais dans une phase de maturation. Je me prépare, et quand je serai prêt, je passerai à l'acte. Mais vous ne savez pas quand. Non. Les deux hommes se regardèrent. Les quartiers exigus du mécanicien, les ordres du capitaine Richards, le statut social et militaire de chacun d'eux, et avec eux tout l'artifice de la situation, semblaient s'être dissous. Il ne restait que cette magie de la parole échangée, cette flèche de lumière et de sens qui jaillissait de l'obscurité. « Cet entretien me paraît avoir beaucoup de sens à moi, » finit par dire Michael. Philippe Reda eut un petit rire gracieux. « Cela vous surprendra peut-être, mais à moi aussi. » Michael lui rendit son sourire et regretta presque, l'espace d'un instant, de devoir se rendre sur l'organe le lendemain.